Rebonsoir, je crois que j'ai dit bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être ici ce soir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans une des îles du Pacifique, les Américains avaient décidé de faire une base pour leurs avions. Ils ont rentré avec des bateaux et tout ce qui était nécessaire pour mettre tout ça en marche. Ils ont fait des tours de contrôle. Et il y avait certains indigènes qui habitaient sur l'île, qui avaient finalement jamais vu ce qu'on appelle la civilisation. Et tous ces Américains étaient là en leur donnant des tablettes de chocolat, des outils et toutes sortes de choses. Et cela a duré pour plusieurs années. Un jour, la guerre était finie. Et les Américains sont partis. Et voilà, ces dieux qui avaient descendu du ciel n'étaient plus là. Ils avaient repris leur tour de contrôle, leur char, leur jeep et tout, et partis. Et les gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait, n'avaient rien compris, et voulaient bien qu'ils reviennent. Comme ça, ils ont pris du bois, du bambou et tout ce qui est nécessaire. Ils ont reconstruit une tour de contrôle avec l'espoir que peut-être ça allait revenir. Et je me demande si, des fois, notre christianisme ressemble un peu à ça. Une imitation de quelque chose qui était vrai, mais que finalement n'est plus vrai. Quelque chose qui n'a pas vraiment la vie qu'elle avait avant, une espoir qui n'est peut-être pas aussi valable qu'on voudrait dans notre conscient vouloir admettre. Des fois, il faudrait être honnête avec soi-même, mais des fois, c'est assez difficile. Je me souviens un jour, j'étais jeune adolescent et il y avait une fille qui m'avait invité chez elle et sa maman m'a accueilli très bien. Et pendant la conversation, il y avait une petite discussion et la fille m'a demandé « Est-ce que je suis trop grosse ?» Bon, en voulant être diplomate, j'ai dit « Tu es très jolie !» Et on m'a redemandé, oui, mais est-ce que tu me trouves trop grosse? J'ai dit, je trouve que tu es très bien. Et la question est revenue une troisième fois, et j'ai dit, mais voilà, on me demande franchement mon opinion. Et j'ai dit, si tu perdais un kilo ou deux, ça ferait pas de tort. Et là, la fille s'est fâchée, et je n'ai jamais été réinvité chez elle. Il y a des moments où on ne veut pas la vérité. Il y a des moments où la vérité nous fait peur, où l'échec nous fait peur, la difficulté de vouloir admettre la réalité de certaines choses. Il faut aussi prendre compte que des fois, ce qu'on sait n'est pas toujours ce qu'on en sent. Des moments que je sais que le soleil brille, et pourtant... Je me demande, avec les nuages qui existent, si vraiment au-delà il y a un soleil. Mais je le sais. Il y a des moments où je ne sens pas l'amour de ma femme, mais je sais qu'elle m'aime. Comme ça, il ne faut pas trop se fier à nos sentiments, il faut regarder les choses en face, il ne faut pas peut-être prendre certaines choses trop sérieux, mais en même temps assez clair pour dire oui, c'est comme ça, ou non, c'est pas comme ça. Jésus nous a promis énormément de choses. Il nous a promis, il nous a dit, je suis venu que vous ayez une vie, et que cette vie soit abondante. Et en disant ça, il disait, je suis le bon berger. Et pour quelqu'un qui écoutait ce texte que Jésus prononçait, ça sera difficile pour lui de ne pas penser au psaume 23 où Dieu dit « L'Éternel est mon berger » et de voir vraiment les promesses qui sont données. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui sont chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Il a aussi dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Il y a des moments où je me demande, est-ce que j'ai vraiment cette vie abondante? Est-ce que j'ai vraiment une raison pour me lever le matin? Est-ce que vraiment, dans les moments où je me sens un peu désespéré, est-ce que ces promesses sont vraies ou est-ce qu'elles ne sont pas vraies? Et en me demandant ces questions, j'ai voulu revenir à certains principes de base. Et en étudiant ça, j'arrive à la conclusion qu'on m'aurait demandé des années avant, j'aurais dit oui, mais pas avec la même réalité. C'est comme si quelqu'un veut décrire qu'est-ce que c'est l'amour et écrit une thèse, et là, quelques années plus tard, il tombe amoureux, il va écrire les mêmes mots, mais ce sera plus pareil, quelque chose de changé. Et il y a des moments où il faut revenir, honnêtement faire face au fait qu'il y a des moments où on porte un masque. On porte un masque en se disant, oui, on est des chrétiens, tout joli, tout va très bien, et à l'intérieur, des moments ça ne va pas. On arrive, peut-être dimanche, tout souriant, et 15 minutes avant, il y avait une petite dispute à la maison. Il y a des moments où, à l'intérieur de nous, ça ne va pas trop bien, mais on donne un beau sourire à tout le monde. Parce qu'il faut bien sûr avoir un bon témoignage. Dieu nous demande, au travers de l'apôtre Paul, d'être imitateur du Christ, de se conformer à l'image du Christ. Et la raison, c'est que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, qui est venu se manifester aux hommes pour s'identifier avec nos problèmes, pour qu'on puisse voir quelqu'un qui était Dieu. Il y a eu au cinéma un film qui s'appelait « Oh Dieu », je crois le titre, et c'était un acteur que j'ai pas tellement apprécié, qui a pris la part de Dieu. Et c'était un film un peu, en tout cas, je sais pas si ça vaut la peine de voir, mais l'histoire au moins est intéressante, où cet homme avait un rendez-vous avec Dieu, est allé dans un bâtiment à 10 étages, et pris l'ascenseur jusqu'au 20e, et finalement c'était... Mais là, il dit, Dieu, manifeste-toi. Et finalement, après plusieurs demandes, voilà Dieu qui arrive, un peu court, un habillement un peu farfelu, et l'homme le regarde. Sans rien dire. Mais ce qui n'était pas dit et ce qu'on savait, c'est comme ça. Et Dieu lui dit, mais à quoi tu t'attendais? Et c'est la question que je me demande maintenant et que je vous demande, à quoi on s'attend? Dieu, il est comment? Est-ce qu'on veut comprendre un Dieu à notre image ou est-ce qu'on est prêt à accepter Dieu comme il est? Je me souviens, j'étais gosse et on m'avait donné un jour une image de Dieu parce que j'étais très bien en classe ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une des bonnes sœurs m'avait donné une image de Dieu. Il avait une barbe blanche, assis sur un trône énorme. Et un peu c'est l'image que j'avais de Dieu pour longtemps. Hein. Et une autre image que j'avais, c'est qu'il avait aussi la foudre en main. Hein. Je me souviens un jour, je me suis fait mal et j'étais voir une des sœurs et je me dis, je me suis fait mal et on m'a dit, mais sûrement Dieu t'a puni pour quelque chose que t'as fait. Mais quand je dis Dieu à quelqu'un, est-ce qu'il comprend la même chose que moi? Est-ce que je comprends la même chose qui est écrite dans la Bible? Et si je ne comprends pas ça, comment je peux aller plus loin? Comment je peux avoir une vie abondante si je ne sais même pas qui est Dieu, qui est le Christ? Et pour moi, c'est la question la plus fondamentale qu'on peut discuter avec quelqu'un. Et je crois qu'on vit dans une société où nos définitions ne sont pas les mêmes que notre entourage. Et je vais aller dire encore plus loin que ça, qu'à des moments que mes définitions sont peut-être trop proches de ceux de mon entourage et pas ses définitions de ce que Dieu lui-même veut. Je veux parler d'une histoire ce soir qui se trouve en Luc, chapitre 15, c'est l'histoire que nous connaissons sous le nom de l'enfant prodigue. Un titre que a été donné par l'homme, j'aime pas le titre, je préfère l'appeler le père compatissant, le cœur de Dieu. Et il y avait un énorme problème de la part des chefs religieux qui ne comprenaient pas qui était Dieu. Je me souviens en parlant avec quelqu'un un jour, un peu comme ça, et quelqu'un me dit, mais ne me parle pas de religion, j'ai assez de problèmes. Est-ce que la religion, c'est un problème? Pour la plupart des personnes, oui. Dieu est un problème. Je me souviens, il y a quelques semaines, parler avec quelqu'un, il me dit, mais Dieu, il me semble que c'est un orgueilleux. Il veut toujours qu'on lui prie et je sais pas quoi. Et j'ai dit, mais je comprends, pourquoi vous pensez comme ça? Il dit, mais ça vous choque pas que j'ai dit ça? Et non, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, j'y crois pas, mais beaucoup de gens qui croient ça. On s'est fait toutes sortes d'images de Dieu. Des images, des connotations, des idées qui sont finalement pas exprimables. Un jour, Jésus est en train de parler avec des gens de mauvaise réputation. Et là, il y avait des chefs religieux, les pharisiens, les maîtres de la loi, qui est en train de murmurer, en train de se dire, mais comment ça se fait que cet homme, soi-disant un prophète d'Israël, mange avec des gens comme ça. Ce qu'il aurait dû demander, comment ça se fait que ces gens-là sont prêts à manger avec Jésus? Parce que je suis sûr que ces gens de mauvaise réputation n'étaient pas prêts à manger avec les chefs religieux. Je me souviens, il y avait une époque dans ma vie que le dernier endroit que je voulais aller pour demander de l'aide, ce serait un chef religieux. Aller demander à quelqu'un et parler de mes problèmes à quelqu'un qui était religieux, non merci. Mais Jésus mangeait avec ces gens, discutait, enseignait. Et ces gens-là étaient en train de murmurer, et sûrement des sous-entendus, des choses pas dites directement, mais comprises, entre eux, mais pour que Jésus et les autres peuvent comprendre, parce que Jésus les a compris. Vous savez comment on peut tenir une conversation avec quelqu'un en disant « Ah oui, cet homme-là !» pour que l'homme peut entendre. Et comme ça, Jésus leur dit une histoire, trois histoires en réalité. Il dit, il y avait un homme qui avait, et il n'a même pas dit qu'il y avait un homme, il dit « Mais qui parmi vous ?» Ça c'était au chef religieux. « Si vous aviez 100 moutons, et il y en a un de ces moutons qui est perdu. Vous en avez 99 en sécurité, il y en a un de perdu. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce mouton perdu va vous ronger. C'est pas les 99 qui vont vous tracasser, c'est celui qui est perdu. Et vous allez partir, vous allez chercher et vous allez trouver. Et quand vous le trouvez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre, vous allez le mettre sur vos épaules, pas lui lancer des coups de pied, le prendre sur vos épaules, le ramener et dire à vos amis, venez, fêtez, j'ai retrouvé le mouton qui était perdu. Et Jésus continue en disant, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. Il continue en disant, et si une femme a 10 pièces de monnaie Là, moi, ça me touche. J'ai jamais perdu des moutons, mais j'ai perdu de l'argent et je sais ce que ça m'en fait. Hein. Je ne savais pas que j'étais attaché à l'argent jusqu'au jour où j'en ai perdu. Et là, je cherchais partout. Hein. Et pourtant, quand il est dans ma poche, bon, l'argent, on n'est pas trop attaché, mais quand c'est ce billet de 100 francs qui était égaré quelque part, là, ça ne va pas. Mais il y avait une femme qui avait 10 pièces de monnaie, elle en perd une. Qu'est-ce qu'elle fait? Allume une lampe, balaye la maison pour trouver cette pièce de monnaie. Et quand elle la retrouve, qu'est-ce qu'elle fait? Gronder la pièce de monnaie? Fait venir ses amis, j'ai trouvé ce que j'ai perdu. Et Jésus a dit, il y a autant de joie pour les anges du ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. J'ai l'impression que nous, étant êtres humains, nous avons un peu la tête dure, un peu comme les chefs religieux à l'époque de Jésus, et c'est pour ça que maintenant, troisième histoire, même thème. Et des fois, je me demande s'il ne faudrait pas un quatrième, parce qu'il y a des moments, je ne sais pas, je le comprends là et je ne le comprends pas là. Maintenant, il me parle d'un père. Un père qui a deux fils. Et le plus jeune dit à son père, « Père, je veux mon argent. » Qu'est-ce que le père lui dit? Non. Non. Ou le père le prend, le renferme dans sa chambre, pour jamais il peut partir. Non. Et lui donne. Il partage son argent de ses deux fils. Il donne au jeune fils son argent. Je ne veux pas parler trop de ce fils, il faudrait y revenir plus tard. Mais ce fils prend cet argent et là, il part. Vous savez, quand on veut faire quelque chose qui n'est pas trop bien, la première chose, c'est de quitter ceux qui sont proches de nous pour pas qu'ils le voient. Hein. Ça, c'est la première réaction. Un peu Adam et Ève. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils ont couru. Mais dans la mauvaise direction. Mais ce fils-là voulait vraiment vivre une bonne vie, mais en même temps savait que ça n'allait pas, comme ça il allait s'éloigner de son père. Il est parti très loin, gaspiller son argent. Il avait beaucoup d'amis, vous savez, quand on a beaucoup d'argent à gaspiller. Mais un jour, plus d'argent, plus d'amis, et maintenant une famine, plus de nourriture. Il trouve un emploi pour nourrir des cochons. Pour un juif, finalement, quelque chose d'abominable, parce que les cochons sont quelque chose qu'on n'ose même pas toucher. Et là, il veut même se nourrir avec la nourriture qu'on donne aux cochons, mais il n'y a personne qui veut lui en donner. Il a tellement faim. Et il commence à penser. Il commence à se demander la logique des choses. Et là, il dit, mais chez mon père, tous les ouvriers, ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour manger, ils ont plus qu'ils ont besoin. Et moi, je meurs de faim. Et là, la décision lui prend. Pas pour des raisons très nobles, mais en même temps, est-ce que c'est si égoïste de vouloir manger quand on a faim? Et je vais retourner vers mon père. Et je vais lui dire, père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Et je ne suis pas digne d'être ton fils, reprends-moi comme un de tes ouvriers. Comme ça, il part, et son chemin était assez long, parce que le texte nous dit qu'il était parti au début dans un pays très loin. Et je m'imagine qu'est-ce qu'il pensait en retournant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va penser, mon père? Qu'est-ce qu'il va me dire? Sûrement, je connais mon père assez bien qu'il va me reprendre comme ouvrier. Mais qu'est-ce que ça va être? Mais ça fait rien, j'ai faim. Et là, il revient à la maison, et son père le voit et lui dit, finalement, tu as compris ta leçon. écoute, je vais te pardonner. Mais, voici les conditions. Connaissez que l'histoire n'est pas comme ça. C'est comme ça que j'agis, moi. C'est pas comme ça que le Père agit. Le Père voit le Fils avant que le Fils voit le Père. J'ai l'impression que le Père est là tous les jours. Mon Fils, où il est? Il a deux fils. Il a un de ses fils qui est là. C'est peut-être dire un peu trop parce qu'on va revenir sur l'autre fils. Mais c'est celui qui est perdu qui lui ronge. Où il est, mon fils? Sûrement il a une idée. Sûrement il le sait. Mais est-ce qu'il va revenir? Et là, le père, quand il voit le fils, sa réaction, c'est qu'il court vers son fils. Il embrasse son fils. Et il dit au serviteur, va chercher la plus belle robe. Amène une bague pour mettre à son doigt. Les chaussures à ses pieds. Va tuer le veau qu'on a engraissé. On va fêter. Et cela était dit en coupant la parole de son fils. Son fils qui lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Et il n'a pas le temps de dire, reprends-moi comme ton serviteur. Comme il avait l'intention de dire, le Père lui laisse même pas le temps. Il lui coupe la parole en disant au serviteur, on va faire une fête. L'histoire ne s'arrête pas là. Il y a de la musique, il y a des danses, il y a de la joie. Et l'autre frère revient travailler dans les champs. Et il entend la musique. Il dit, chouette, une fête. Non. Il veut savoir ce qui se passe. Il veut tirer ses combines. Il appelle un serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur lui dit, il dit, ton frère, qui était perdu, il est retrouvé. Et le frère se met en colère. Et il refuse d'entrer. Et qu'est-ce que le père fait? Ce fils-là. Non. Il sort. Il dit, mais rentre. Et qu'est-ce que le fils lui dit? Il dit, mais ton fils, pas mon frère, ton fils. Moi, je n'ai plus rien à faire avec lui. Qu'a gaspillé tout ton argent avec des prostituées. Qui lui a dit ça? Le frère écrivait des lettres? Je suis en train de gaspiller tout l'argent avec des prostituées? Peut-être c'était vrai. Mais comment il savait? Vous voulez mettre ça dans la façon la plus méchante possible. Mais l'accusation qui commence vers le frère n'est pas vers le frère, c'est vers le père. Premièrement, il dit, ton fils, maintenant il va parler sur lui-même. J'ai jamais désobéi à un de tes commandements. Formidable! J'ai jamais vu un fils comme ça, moi. Jamais désobéi à un de tes commandements. Mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il appelle la demande du père de rentrer. Et le refus de vouloir rentrer. L'obéissance? Et là, il dit, tu as tué le veau gras pour lui, et moi qui n'ai jamais transgressé tes commandements, tu ne l'as jamais fait pour moi. Est-ce que le Père était prêt à le faire? Est-ce qu'il ne l'a pas fait au début en disant au fils qui lui demande, donne-moi l'argent, oui? Si l'autre fils dit, donne-moi un veau gras, ben oui. Comment il est le Père? Il était prêt à donner. Et le Père lui dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. T'avais qu'à demander. Et là, il lui dit, ton frère qui était mort, il est vivant. Ton frère qui était perdu, il est retrouvé. Il faut fêter. Et là, l'histoire se termine. Est-ce que le fils rentre ou non? Le texte ne nous dit pas. Le chapitre termine. Et on est... Jésus nous laisse avec un grand point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'il est en train de demander aux chefs religieux, est-ce que vous allez rentrer ou non? Je suis ici en train de parler avec des gens de mauvaise réputation. Est-ce que vous allez rentrer ou non? Il est en train de leur dire...